France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Et l'on commence ce matin par cet assouplissement des règles à l'école concernant les détections de Covid-19. Dans les écoles maternelles et élémentaires, lorsqu'un enfant sera testé positif, sa classe ne fermera pas. Les autres élèves et les professeurs ne seront pas considérés comme cas contact, les enfants étant moins vecteurs de transmission. La classe ne fermera donc que si 3 élèves minimum, issus de 3 familles différentes, y sont testés positifs. Ces dernières 24 heures par ailleurs en France, sachez que plus de 10 500 nouveaux cas ont été recensés. 40 personnes de plus sont hospitalisées. Pendant ce temps, de nouvelles restrictions de circulation sont instaurées en Espagne, dans la banlieue sud de Madrid. Près d'un million de personnes ne peuvent désormais plus sortir de leur quartier, si ce n'est pour des raisons de première nécessité. Le reconfinement qui n'a pas empêché quelques milliers de personnes de manifester hier en Israël, moins nombreuses que les 12 semaines précédentes, mais présentes quand même pour protester contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui est inculpé pour corruption et accusé de mauvaise gestion de la crise sanitaire. Près d'un tiers des électeurs italiens se sont déplacés hier pour participer à des élections régionales étalées sur 2 jours. Il s'agit notamment d'élire le président de la Toscane, un bastion de gauche depuis un demi-siècle dont l'extrême droite rêve de s'emparer. Les électeurs doivent également se prononcer sur un référendum national qui concerne la réduction du nombre de parlementaires en Italie. Notez aussi que le candidat démocrate à la présidentielle américaine Joe Biden a accusé hier soir Donald Trump d'exercer le pouvoir de manière brutale. Il lui reproche en fait d'essayer de nommer un nouveau juge à la Cour suprême avant la présidentielle, ce qui suscite des réserves au sein même du Parti républicain. Nous y reviendrons dans le journal de 6h30. Je vous rappelle que vendredi dernier, la juge Ruth Bader Ginsburg, une icône féministe et progressiste, est décédée des suites d'un cancer.
Une seule planète, mais une multiplicité de points de vue et d'usages. Sur France Culture, Florian Delorme.
Alors que s'ouvre la 75e session annuelle de l'Assemblée Générale des Nations Unies sur fond de pandémie, nous allons nous consacrer cette semaine à la question de la gouvernance mondiale et regarder ce qu'elle peut encore et ne peut pas en matière géopolitique, économique, environnementale. Quoi sert l'Assemblée Générale des Nations Unies? Que peut l'OMC dans les conflits commerciaux? La biodiversité peut-elle encore être sauvée?
Culture Monde, du lundi au vendredi à 11h sur France Culture et sur franceculture.fr. Vieillir pour le meilleur sur les chemins de la philosophie, Adèle Vendrette.
On commence avec le cardiologue Philippe Abbastiado pour une exploration du cœur des vieux. On continue avec la philosophe Manon Garça qui viendra se demander si Simone de Beauvoir aurait bien vieilli. L'écrivain Régis Geoffrey viendra nous dire pourquoi il adore les seniors. Et enfin Marion Masse viendra vous parler de l'élixir de longue vie d'Honoré de Balzac.
Les chemins de la philosophie, cette semaine à 10h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture, il est 6h03, la morue est à l'honneur dans le monde vivant de Bruno David.
Une bagarre dans le village d'Astérix. Une de plus, déclenchée par une remarque du forgeron sur la fraîcheur des poissons de son voisin ordre alphabétix. Pourtant, le poissonnier du village est très fier de son fournisseur. En effet, bien qu'il habite un village en bord de mer, il s'approvisionne chez les meilleurs grossistes de Lutèce, d'où il est livré en char à bœuf. Pas étonnant que la fraîcheur de ses poissons fasse l'objet de railleries. Le coup de poisson pas frais à travers la figure est devenu un grand classique des disputes gauloises. Mais faisons un petit saut dans le temps et retrouvons-nous au Moyen-Âge. Les historiens connaissaient le commerce du poisson à travers l'Europe, notamment celui de morue séchée, mais dans bien des cas, les sources d'approvisionnement restaient à préciser. En 2016, des scientifiques ont réalisé la prouesse de localiser la provenance d'arêtes de morue excavées de sites archéologiques. En d'autres termes, de quelle population de morues provient une arête trouvée dans les poubelles moyenâgeuses? Comment est-ce possible? Les ossements de la morue atlantique, Gadus morua, ne sont ni très durs ni très denses. Ils sont même plutôt fins et poreux et conservent très bien l'ADN. Suffisamment bien pour que l'on puisse comparer le matériel génétique des morues médiévales avec celui des morues modernes qui nagent dans l'Atlantique. Cette comparaison permet d'établir une sorte de passeport génétique pour chaque morue médiévale. Que nous disent les passeports? Sur 5 sites archéologiques médiévaux d'Allemagne, de Norvège et d'Angleterre, les morues sont issues de populations réparties dans le nord-est de l'Atlantique arctique. En d'autres termes, autour de l'an 1000, la morue séchée venait de loin et circulait un peu sur le mode des chars à bœufs d'ordre alphabétique. Ce gars-là avait du flair, celui du commerce du futur. Avançons au XVIe siècle. Avec la colonisation du Canada, les Français de toutes les couches de la société s'enticheront d'une morue d'origine encore plus lointaine, celle de Terre-Neuve. Puis au XVIIIe siècle, après la perte du Canada ratifiée en 1763, l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon fut âprement disputé entre Anglais et Français. Il faut dire qu'il donnait accès à de foisonnants bancs de morues atlantiques. Au XIXe siècle, on pourrait évoquer les pêcheurs d'Islande célébrés par Pierre Loti. Le cabillaud, qui est l'autre nom de la morue, a ainsi été de plus en plus fréquent sur nos tables, jusqu'à devenir notre poisson préféré. Mais ce n'est pas sans conséquence. Poisson carnivore à croissance lente, la morue atteint sa maturité sexuelle vers 6 ans, et elle a beau être prolifique, une femelle pond des millions d'œufs, on comprend bien que la pêche finit par se heurter aux limites des stocks. En 1992, les stocks de morue autrefois très abondants s'effondrent brutalement à plus de 99%. Le gouvernement canadien instaure un moratoire, mais près de 30 ans plus tard, les morues peinent à revenir. Un nouvel écosystème est installé et d'autres poissons ont pris leur place. Comme sur l'étal d'ordre alphabétique, la morue à l'œil bien terne, sa population atlantique, exploitée 5 siècles durant, est quasiment anéantie.
Mettez vos sens en éveil, 6h, 7h, les petits matins de France Culture. Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Le réveil culturel qu'on peut écouter tous les jours de la semaine, tôt à la radio, quand on veut, en passant par le podcast ou l'écoute en ligne. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, mon invité est Faye Hagen, qui publie son 6e roman chez Plon et qui a pour titre « La discrétion ».
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Bonjour Faye Hagen.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver autour de votre dernier roman, « La discrétion ». Paru chez Plon, c'est le portrait magnifique d'une femme, Yamina, née en pleine guerre en Algérie, et qui aura 3 enfants en France, ou plus exactement à Aubervilliers, où elle a été obligée de venir rejoindre son époux, un travailleur émigré et maçon. Alors, c'est l'été de ses 70 ans, et donc Yamina est entourée de ses enfants aimants, et c'est aussi le roman qui raconte sa vie. C'est vraiment bouleversant parce que vous avez une tendresse immense pour cette famille et particulièrement pour Yamina, cette femme discrète et conciliante.
Oui, beaucoup de tendresse pour ce personnage parce qu'avant tout, c'est un hommage. Donc, il y avait cette dimension de vouloir remettre des couleurs dans ces personnages de femmes qu'on voit de manière tellement effacée. Et puis, la question que j'avais envie de me poser aussi, c'était... Quelle jeune fille, quelle petite fille, quelle femme elle a été avant d'être une mère. Au-delà d'être une mère, elle a eu des rêves, elle a eu des ambitions, elle a eu voilà, une histoire. Et l'air de rien, elle a une histoire incroyable, quoi. Et voilà, j'avais envie de rendre...
Cette invisible a eu une histoire.
Absolument. Et une histoire pas des moindres, quoi. C'est-à-dire une histoire vraiment... intense, complexe, voilà, liée à la guerre, à l'exil, à toutes ces questions, mais aussi toutes les questions relatives à sa féminité, à ses choix de vie, aux rêves qu'elle a eus autrefois, qu'elle n'a pas pu forcément réaliser, comme le fait d'aller à l'école, de continuer ses études, etc. Donc il y avait l'envie de dérouler un fil de la vie de cette femme et de la sublimer aussi.
Au sein d'une famille, parce que la famille est très présente.
Absolument.
Le père, les enfants.
Ouais. C'est aussi parce que c'est un contexte qui est très particulier, c'est-à-dire que quand je commence l'histoire, on est en 1949, et c'est la naissance de Yamina dans un village à l'ouest de l'Algérie, donc à l'aube de la guerre d'Algérie, et on fait des allers-retours entre sa vie présente et cette histoire passée. Et donc c'était une manière pour moi aussi de montrer ce que c'est d'être une femme qui est née en tant que sujet colonisé et qui devient la mère de citoyens français. c'est quand même, entre les deux, on a envie de comprendre ce qui s'est passé dans cette existence. Et on a envie de comprendre quels sont les impacts et les conséquences de cela sur ces enfants, qui eux sont français, qui sont nés en France et qu'elle a élevés, elle, sur le territoire français.
Et ces enfants ne supportent pas qu'on s'adresse à Yamina, leur mère, comme si elle était absolument idiote, naturellement inférieure. Il y a une scène, c'est Yamina, votre personnage central dans une consultation médicale, qui dit tout. Et c'est d'une rare violence. Et comme toujours avec vous, Faith Hagen, vous faites passer ça avec une tendresse inouïe.
En consultation, le médecin se contente du minimum. Il ne va pas beaucoup plus loin que les examens routiniers. Ce qui est remarquable, c'est qu'il tutoie Yamina. Non parce qu'il y a une quelconque intimité entre eux, ni même parce que c'est un homme particulièrement chaleureux. Il la tutoie après avoir dit « Madame Yamina ». Par exemple, il demande « Alors, Madame Yamina, tu as bien pris tes petits cachets ?» Ou « Madame Yamina, ça ne va pas le diabète en ce moment, tu as mis trop de sucre dans ton thé à la menthe ?» Et c'est absurde, mais Yamina l'aime bien. C'est probablement l'habitude. 15 ans déjà qu'elle vient ici. Elle lui est fidèle. Elle n'a jamais songé à le quitter. D'ailleurs, elle s'enquiert toujours de la santé de son médecin. C'est assez cocasse. Elle est probablement la seule de ses patientes à lui demander comment il va et à prendre des nouvelles de sa famille. Elle le fait avec une sincérité déconcertante. Elle ne perçoit aucune condescendance dans le ton qu'il emploie avec elle. Même lorsque, sous prétexte d'humour, il lui demande de dégager ses oreilles de son foulard pour y regarder à l'intérieur avec son otoscope et qu'il ajoute « Allez, on enlève sa petite burqa pour montrer ses petites oreilles ». Yamina ne voit pas le mal, ça la fait même plutôt sourire. Yamina ne voit pas non plus ce que les gestes indélicats du médecin traduisent. Elle ne se rend pas compte qu'il est brusque et expéditif. Parfois même, il la heurte en lui soulevant le bras pour prendre sa tension. Mais jamais elle n'oserait le lui faire remarquer. Comme si avoir mal était acceptable. Comme si rien n'était grave la concernant. D'une certaine façon, Yamina est préservée.
Yamina, c'est le nom du personnage central du dernier roman de Faith Hagen, La discrétion. Yamina, et vous posez la question d'ailleurs parce que cet extrait est très frappant. Je veux dire qu'on voit bien tout le malaise et on comprendra mieux, une fois, parce que ça c'est le début du roman, la colère des enfants ou d'une des enfants de cette famille qui ne supporte pas que sa mère soit traitée comme ça.
Ça c'est le personnage de Anna qui est une des filles de Yamina qui, elle, je pense, est la plus incandescente. Ça la met hors d'elle parce que, en même temps, il y a des raisons. Hein, c'est voir sa mère dont on sait le parcours qu'elle a eu et dont on sait ce qu'elle a traversé, la voir être infantilisée et méprisée, c'est très difficile. Et puis c'est aussi une accumulation, c'est-à-dire que ce sont des scènes, en vrai, d'une banalité incroyable. Parce que je suppose que ce n'est pas seulement le cas pour Yamina et que c'est le cas pour beaucoup de gens. Donc quand on est l'enfant et qu'on voit du coup cette scène de l'extérieur, c'est dur à vivre, c'est difficile. Et c'est dur à raconter. Parce que ça a l'air d'être un détail, d'être une plaisanterie anodine, une petite remarque l'air de rien comme ça. Et en fait, à force, toutes ces micro-agressions, elles provoquent une colère sourde qui est très dure à gérer, en fait, pour ses enfants.
Mais la narratrice de ce roman, elle se pose d'autres questions. Elle n'est pas comme Anna. Elle se dit, et si aujourd'hui, pour cette femme de 70 ans, pour Yamina, refuser de se laisser envahir par le ressentiment était une façon de résister?
Oui, c'est simplement changer un petit peu de point de vue. C'est-à-dire que d'abord, pour cette femme, moi en tant que romancière, j'ai envie d'avoir de l'indulgence, ouais. C'est-à-dire, et aussi de comprendre, au-delà de cette image de femme discrète qui s'écrase, j'ai pas envie de voir seulement de la faiblesse. Je refuse de croire que c'est de la faiblesse, c'est autre chose, et c'est ça que je veux creuser. Alors, c'est une famille, comme beaucoup de familles dans ce cas, qui n'a pas un capital financier, un capital culturel de départ, donc un père qui était mineur, puis maçon, et une mère au foyer qui a traversé la guerre, l'exil, etc., qui ont vécu dans des conditions de pauvreté. Qu'est-ce qui reste comme capital dans cette famille? C'est le capital dignité. Et moi, c'est ça que j'avais envie de mettre en avant dans ce livre. La dignité, comme l'amour, c'est des choses qui se transmettent aussi. Et peut-être que c'est ça devient encore plus important quand il n'y a pas le reste.
Il n'y a pas seulement que la dignité et l'amour qui se transmettent, il y a aussi la colère. Et vous dites que la colère même enfuie ne disparaît pas et que peut-être cette colère enfuie de Yamina, elle la transmet l'air de rien aux enfants.
La colère, elle se transmet aussi, mais pas de la même façon évidemment, mais elle se transmet par le silence, par le fait de taire ces choses, par le fait de ne pas évoquer les humiliations, par le fait de ne pas avoir envie d'écraser ses enfants, de les charger avec le passé, avec les difficultés. Quand je dis dignité, c'est ça, c'est-à-dire pour moi, c'est la dignité qui fait qu'on ne veut pas avoir l'air faible ou avoir l'air de se plaindre. Et donc on ne dit pas ces choses, on n'en parle pas. Mais ces silences et ces humiliations qui sont tues, ça se transmet quand même. C'est-à-dire que la colère, elle, au contraire, elle grandit.
Il y a beaucoup de taiseux dans ce roman et dans cette famille, il faut le dire.
Ouais.
C'est-à-dire que le père ne parle pas beaucoup, même s'il s'avère être un romantique, un drôle de romantique. Hein,
ouais.
Parce qu'il faut rappeler que Yamina était obligée de l'épouser. Hein, c'est pas un mariage d'amour, c'est un mariage, allez, on va dire de raison, mais surtout un mariage forcé. Il ne parle pas beaucoup. Le fils ne parle pas beaucoup non plus. Et puis surtout, il y a un autre personnage très effacé qui ressemble beaucoup à Yamina, c'est la sœur aînée. Et on a l'impression qu'elle s'est sacrifiée pour sa mère, elle.
C'est la première génération, fille aînée, Malika. Et c'est pareil, que ce soit le mariage des parents ou après les choix qui ont été faits pour ces premières générations de filles en particulier, j'ai aussi envie d'être indulgente, c'est-à-dire de comprendre cette histoire. C'est-à-dire que pour moi, le mariage de Yamina et de Brahim, les parents, d'abord, ce n'est pas un mariage forcé, c'est un mariage arrangé. Et pour moi, c'est le même arrangement dans la campagne en Algérie qui pourrait avoir lieu aussi dans les milieux plus bourgeois à Paris. C'est-à-dire que ce sont des mariages arrangés des familles qui se connaissent, qui se recommandent, etc. Ce n'est pas forcément le mariage barbare où on force la fille à épouser quelqu'un qu'elle n'aime pas. Ce n'est pas ça la question. Ce que je dis, c'est que ces filles ont souffert de ne pas avoir eu de précédent. C'est-à-dire que les parents, ils essaient d'inventer des règles au fur et à mesure que leur vie se poursuit ici. Dans le roman, il est beaucoup question de ce retour qui n'a finalement jamais lieu, de ces parents qui espéraient rentrer un jour. Et donc, cette vie temporaire-là, ils essaient de l'organiser comme ils peuvent, en mettant des règles, en essayant de trouver un essor de truc hybride entre leurs souvenirs de ce qui se passait au village et puis ce qui se passe ici, en France, avec les autres familles autour. Et donc, ces filles, elles ont été quelque part sacrifiées parce qu'on ne savait pas comment ça se passait. Ce n'est pas juste des parents bornés qui forçaient les filles à se marier avec des gens qu'elles n'aimaient pas. C'est qu'il fallait inventer une organisation, un système, et que ça n'a pas fonctionné.
تجل خودي اتخبارك المرض اللي بيك هلك نبالي طاق عليك نشوفك هو سقس الدنيا سخية هنا لما تهول قلبي من ظهرك كان المولى يقبل من نبالي طاق عليك نشوفك هو سقس الدنيا سخية هنا لما تهول قلبي من ظهرك كان المولى يقبل من نظهرك أيامي هنا وما عدم زين كلمة
Le réveil culturel, Tofik Hakem sur France Culture.
Et avec Faïza Ghen ce matin, Khaled chantait Yamina. Yamina comme le personnage central de votre dernier roman édité chez Plon, La Discrétion, La Discrète Yamina. Il y a une très très belle scène à la fin de ce roman, c'est les vacances. Toute la famille va en vacances enfin et ça va être la première fois pour Yamina. Ces vacances, ça va être aussi la première fois de découvrir la France en dehors d'Aubervilliers, à l'âge de 70 ans. Il y a beaucoup de tendresse, mais on a vraiment le cœur serré quand on lit ce roman Faïza Ghen.
Je pense que je suis pas dans le fantasme ou dans l'idéalisation. Je crois que ce récit et cette famille, finalement, sont proches de tas de familles et de tas de choses que j'ai pu observer de ma propre famille et d'autres familles. Et que finalement, c'est bien de se pencher un peu sur les rêves et sur les aspirations et sur les sentiments entre les parents et les enfants, et de regarder les choses avec un peu plus d'indulgence, un peu plus de tendresse. Ça nous permet d'avoir un tableau quand même plus complexe que ce qu'on a l'habitude d'avoir.
Et beaucoup de recul. C'est la première fois que vous prenez beaucoup de recul, Feyzaghen, pour le meilleur, et rien que pour le meilleur, parce que là, on retrouve la Feyzaghen des débuts, celle qui est drôle et qui sait être drôle, même quand elle aborde des sujets très très graves, parce qu'à un certain moment, vous dites que, aussi bizarre que ça puisse paraître aujourd'hui, dans la France d'aujourd'hui, mais il y a eu un temps où c'était plutôt cool, pour ne pas dire hype, d'être arabe en France.
Absolument.
Oui, et que ça a duré très peu de temps.
Ouais, je dis que c'est une mode qui a duré 3-4 ans et qu'il fallait vraiment profiter parce que...
De 98 jusqu'en 2001.
Oui, c'est ça.
Vous ne faites pas que rappeler ça, parce que vous dites aussi qu'il s'est passé quand même quelque chose. Hein. On parle souvent d'ascenseur social en panne dans les quartiers défavorisés de France. En réalité, l'ascenseur fonctionne peut-être moins bien et moins rapidement que les autres ascenseurs des quartiers plus huppés, mais il fonctionne parce que la vie de ces jeunes qu'on rencontre à travers la famille de votre livre Feyzaghen, ils ont changé, c'est-à-dire ils veulent réussir dans la vie, ils ne vont plus d'ailleurs au bled pendant les vacances, ils préfèrent la Thaïlande, et ça, vous racontez ça, c'est aussi l'inventaire de comment cette société, ou ces quartiers populaires dans cette société française évoluent.
Alors, vous parliez de recul tout à l'heure, Toufik, sur le fait d'avoir pris du recul. Même, je veux dire, dans la manière d'écrire, c'est la première fois, c'est le premier roman que j'écris à la troisième personne. Donc, je pense que c'est un signe fort de ça. Mais en même temps, j'ai pas envie de... J'ai envie, justement, s'il y a un message pour ce livre, d'abord, c'est que ce récit compte. Que le récit de cette femme, qui a l'air invisible... Il existe et qu'il faut le raconter, que c'est important, que c'est nécessaire. Et l'autre chose, c'est aussi que c'est un portrait d'une famille française, finalement. Et que j'invite, en fait, les lecteurs à avoir la curiosité de comprendre, pour ceux qui sont pas familiers de ce genre d'histoire, de cette culture, de cette histoire, etc. Mais ce que j'ai envie de dire, en vrai, c'est qu'il y a des conditions. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont des mouvements, qui sont ordonnés. Que ce soit pour des familles bourgeoises blanches ou pour des familles d'Algériens qui vivent à Aubervilliers, il y a des choses qui se poursuivent, il y a une continuité, il y a un héritage. Et chaque génération reçoit un héritage. Et en fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Comment on s'en tire, en fait ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on décide ?
C'est parce que vous êtes mère aujourd'hui, Feyzaghen, que vous posez ce genre de questions ?
Pour être honnête, je me la posais même avant d'être mère, cette question de l'héritage, parce que moi, j'ai eu des parents et un père qui m'a eu tard. Et quand on a des parents âgés, je crois qu'on se pose les questions plus tôt. Parce que je pense que j'ai toujours senti que quelque chose pouvait m'échapper. J'ai eu envie d'écrire tôt et j'ai eu envie de comprendre l'histoire de mes parents assez tôt. J'ai fait avant de d'écrire des romans, j'ai fait des courts-métrages, j'ai fait des films documentaires quand j'étais très jeune. À 17 ans, j'ai fait un docu sur le 17 octobre 61. Et c'est grâce à ce documentaire que j'ai fait parler mon père pour la première fois de cet épisode de l'histoire française qui était pour moi très marquant, en fait. Et j'ai compris que, oui, chaque génération a sa mission à remplir. Et la nôtre, peut-être, c'est de recueillir ces récits et de les raconter.
Alors aujourd'hui, on parle d'écrire une histoire franco-algérienne. Le président Macron a même désigné Benjamin Stora pour commencer ce chantier. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Feyzaghen ?
Je pense qu'il serait temps de reconstruire et déjà de parler, de raconter, parce qu'il nous manque. Moi, je parle de mémoire en fragments. Pour les gens de ma génération, d'ailleurs, une génération même avant la mienne, c'est-à-dire la première génération née en France, parce que moi j'ai un écart de génération avec mes parents, que je suis très préoccupée par ces questions aussi. Mais il serait temps quand même qu'on se dise que nos histoires, elles méritent d'être racontées et qu'on en a besoin pour que les choses soient plus simples. Qu'on a besoin de savoir de ce qui s'est passé. Et bon, à défaut d'avoir dans l'histoire, dans la mémoire collective et dans les livres d'histoire à l'école des choses qui nous concernent, on peut au moins faire parler nos parents et faire parler les témoins de cette histoire, et écouter leurs récits et les inscrire quelque part.
Et d'être témoin à votre tour, Feyzaghen.
Ouais.
Il y a des moments très forts dans votre roman La Discrétion. Ce sont des questions que très peu de gens se posent. Par exemple, quand il y a un attentat en France, quand cet attentat est probablement commis par des islamistes, on ne devine pas comment ces familles d'origine arabe réagissent aux informations, à comment cette actualité est commentée. Et vous le racontez très bien. Dans cette famille, dès qu'il y a un attentat, la première chose ce qui leur vient à l'esprit, c'est de se dire, mais mon Dieu, pourvu qu'il ne s'agit pas d'un des nôtres. Et puis après, vous dites, de toute manière, quand il y a un deuil national qui devrait regrouper tous les citoyens de ce pays, il y a quand même une partie qui est exclue du deuil national.
Absolument. Ce que je dis, c'est que...
C'est très fort, hein, ce passage.
Je dis qu'un peuple uni ne se divise pas pour pleurer ses morts. C'est même à ça qu'on le reconnaît. C'est ça la phrase exacte. C'est-à-dire que, et pour moi, c'est très important de le dire. C'est-à-dire, avant même de se dire, mais j'espère que c'est pas un des nôtres, d'abord, on est comme tout le monde. On ressent de l'effroi, de la tristesse. Et bien sûr que notre élan naturel, c'est d'être justement en cohésion avec tout le monde, avec tous les autres. Et puis, on est malheureusement contraint de se décaler un peu du cortège. C'est-à-dire, on doit se... Je parle de ça, mais ça c'est, je ne suis pas la première à l'avoir évoqué. Le fait de se désolidariser, c'est terrible parce que du coup, on est affilié à des gens avec qui on n'a absolument rien en commun. C'est terrible. Moi, je le vis comme une injustice à chaque fois. Et j'aimerais... voilà, c'est que en lisant ce livre, peut-être certains lecteurs vont comprendre dans quel mouvement on est mis à notre insu. C'est-à-dire que on ne choisit pas de se désolidariser de gens qui ne nous ressemblent pas et qui n'ont rien en commun. C'est pas possible.
C'est peut-être votre livre le plus politique, Faïza Ghanou, ou du moins le plus inquiet sur la politique en France, La Discrétion.
Je dirais pas que c'est mon livre le plus inquiet, mais je dirais que certainement que c'est le plus politique, mais dans l'intime. Moi, ça ne m'intéresse pas à la politique pour la politique et faire des débats creux et tout. Et ça ne résonne pas en moi de la même manière que raconter ce qui est politique dans l'intime. Je trouve que c'est ça qui compte et qui est vraiment, en tout cas pour moi, qui fait écho.
Vous avez pris 2 ans pour écrire ce roman. C'était quoi l'idée de départ? Bien sûr, parler de ces gens qui disparaissent, des Chibani, de leurs épouses, ce que vous avez dit au début. Mais est-ce qu'il y avait un autre événement qui est à l'origine de cette envie de raconter l'histoire de Yamina?
Oui, c'est une question. La question, c'est comment ces mères, elles ont fait pour nous élever sans justement nous donner cette colère, sans être en colère. Et quel exploit! Et j'avais envie justement de comprendre cette démarche. L'idée, c'est voilà, de se mettre en paix, en fait. C'est que notre génération se mette en paix avec ça et qu'on se débarrasse de cette colère pour construire quelque chose de meilleur. Donc, il n'est pas inquiet, en vérité. Il est plein d'espoir, ce roman. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont fait quand même... Donc, nos parents, c'est un miracle qu'on ne soit pas... voyez, qu'on arrive quand même à se construire et avoir envie d'appartenir alors qu'on a tout ce bagage à porter. Et l'idée, c'est de se délester.
Voilà, il y a des passages très drôles, hein. Vous restez quand même...
Oui, ça a l'air hyper sérieux, là, depuis tout à l'heure.
Depuis tout à l'heure, mais c'est très drôle, il y a des passages très drôles. Mais c'est un mélange des deux, hein. C'est-à-dire la gravité de l'époque.
Mais vous savez, c'est la vie. C'est-à-dire que souvent, quand on parle des gens d'origine, hein, pour être plus général, on n'arrive pas à nous accorder quelque chose qui est normalement universel, c'est la complexité. C'est-à-dire que nous sommes complexes. Nous avons des colères, nous avons des joies, nous sommes... Et en fait, on est comme tout le monde, on est complexe aussi. Je pense que c'est une vraie richesse de... Parce qu'on se sent fier de qui on est, heureux de qui on est. Et on n'a pas honte, et cette génération-là, elle ne va pas baisser la tête.
La discrétion de Faïza Ghanou paraît chez Plon, et c'était, comme d'habitude, un plaisir de vous avoir
partagé,
ce matin.
Partagez, Toufik, merci beaucoup
Faïza Ghanou.
Culture, l'esprit d'ouverture.
François Mitterrand est élu président.
Une série d'espionnage au cœur des services secrets des années 80, projet Orlov sur France Culture.
Très bien, passez-moi la communication dans le salon de bibliothèque.
Un agent disparaît, crise à l'Elysée, ambassade sur écoute, course-poursuite de Londres à Genève jusqu'aux portes du désert algérien. Projet Orlov, série d'espionnage haletante, entièrement tournée en décor naturel, en son immersif. Le feuilleton à 20h30 et sur franceculture.fr.
Demain à 20h, Live AFIP spécial session unique. Un nouveau concert exceptionnel avec Magma, Chassol, Yom, le Cabaret Contemporain, le Quatuor de Bussy, Kerenan, Nosfell, Claire Diterzi, Baptiste W. Hamon, Fred Palem et le Sacre du Tympan. Sur FIP, demain à 20h. FIP, une radio de Radio France.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. L'espoir d'un plan B sur le site de Bridgestone à Béthune. Le gouvernement, les élus locaux et les syndicats de l'usine du Pas-de-Calais veulent faire pression aujourd'hui sur la direction. Tous se réunissent sur place, sous la menace toujours d'une fermeture de l'usine. 863 personnes craignent le licenciement. Vous entendrez ces salariés dès le début de ce journal. Les tests rapides arrivent en Île-de-France. Une vingtaine de centres sont installés à partir d'aujourd'hui pour un résultat promis en 24 heures. Vous le comprenez. Face aux contaminations grandissantes de Covid-19. Et puis nous irons aux États-Unis où la nomination d'un nouveau juge à la Cour suprême déchire la classe politique. La doyenne est morte vendredi dernier à un mois et demi de la présidentielle. Un poste essentiel est en jeu. On commence donc par cette visite prévue aujourd'hui à Béthune, dans le Pas-de-Calais. Les ministres du Travail, Elisabeth Borne, et de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, doivent y rencontrer les représentants du personnel de Bridgestone, les élus de la région, mais aussi la direction européenne du groupe. Bridgestone veut fermer son usine française qui emploie 863 salariés. L'objectif de cette première réunion de travail à Béthune est de convaincre le fabricant de pneus d'investir sur le site pour éviter la fermeture. Les pouvoirs publics sont d'ailleurs prêts à aider financièrement une modernisation de l'usine. En attendant, il n'est pas question de grève sur place pour les salariés, Claire Mesureur.
Julien a 38 ans, un enfant en bas âge, une maison à payer et comme les autres, eh bien, il a repris le chemin des ateliers. Pour lui, il n'est pas question de faire grève après l'annonce de la fermeture du site quand il sait qu'au printemps prochain, il est susceptible de recevoir sa lettre de licenciement.
La seule chose qu'ils vont voir, c'est qu'on ne va pas être payé. Puisque apparemment, des pneus, ils n'en ont pas besoin, apparemment. Donc, faire grève, c'est bien beau, mais derrière, on n'est pas payé. Il faut essayer de prendre de l'argent où on peut le prendre pour l'instant.
C'est son père qui l'a fait entrer chez Bridgestone il y a 12 ans, parce que lui-même y a passé toute sa vie à fabriquer des pneus à Béthune.
Pour lui, c'est navrant. Comme beaucoup de monde ici, on se dit ouais, bah, ça aurait été bien de faire sa carrière ici quand même. Quoi. Ouais, même pour moi, il n'aurait jamais imaginé que ça serait passé comme ça. Hein.
Julien, lui, s'estime préservé. Il est encore jeune. Sa femme travaille au centre hospitalier. Il a lui-même suivi une formation d'aide-soignant en 2017. Mais il pense à ses collègues plus âgés. Allant l'avenue des ministres à Béthune, il n'en attend pas grand-chose.
Moi, les politiques, j'y crois pas une seconde. J'espère rien d'eux. Ça, c'est clair et net. Tout le monde peut venir fanfaronner ici. J'y crois pas une seconde.
Et à Béthune, la moyenne d'âge chez Bridgestone est de 43 ans.
Claire Mesureur de France Bleu Nord pour France Culture. Les règles concernant les cas contacts à l'école vont être assouplies dans les maternelles et les écoles élémentaires à partir de demain. Le ministère de l'Éducation nationale a détaillé ce nouveau protocole hier soir. Lorsqu'un enfant sera testé positif au Covid-19, sa classe pourra continuer de se tenir normalement pour les autres élèves. Pour qu'une classe ferme, il faut que 3 enfants soient positifs dans 3 familles différentes. Pour lutter contre la deuxième vague de Covid-19, par ailleurs, sachez que l'Agence régionale de santé d'Île-de-France annonce l'ouverture de 20 nouveaux centres de dépistage dans la région. Un dépistage rapide avec un délai de 24 heures et massif, entre 500 et 1500 tests par jour. 2 de ces centres vont ouvrir cette semaine en Seine-Saint-Denis, où la mortalité avait augmenté de 130% au printemps par rapport à l'année dernière. Ces centres seront à Bondy et à Saint-Denis. Le président du conseil départemental, Stéphane Troussel, s'en réjouit.
Tout ce qui permettra d'augmenter à partir de maintenant les capacités de dépistage et surtout de prioriser pour limiter les délais et permettre d'isoler les cas positifs, c'est absolument indispensable. 2 centres sont d'ores et déjà envisagés dans mon département, mais je crois qu'il faudra vraisemblablement monter en puissance encore si la situation de l'épidémie évolue, parce qu'encore une fois, tout doit être fait pour éviter la saturation dans les toutes prochaines semaines de nos hôpitaux et ne pas être contraint de remettre en place un confinement généralisé.
Le confinement généralisé, justement, il en est question depuis vendredi en Israël, ce qui n'a pas empêché quelques milliers de personnes de manifester hier dans les rues contre le Premier ministre. Nous y reviendrons tout à l'heure dans le journal de 7h, mais à 6h34 sur France Culture, traversons la Manche vers la Grande-Bretagne, où il était aussi question de reconfinement. La rumeur court face à une augmentation sensible du nombre de cas positifs au Covid-19. Pour le moment, des mesures localisées sont privilégiées dans le pays. C'est le cas à Newcastle, dans le nord-est, l'une des villes où le taux de contamination est le plus élevé en ce moment. Les bars, les restaurants ferment à partir de 22h et il est interdit d'organiser des rencontres avec des gens extérieurs à son propre foyer. Les jeunes sont particulièrement visés par le gouvernement britannique et justement, c'est la rentrée universitaire. Richard Place s'est donc rendu sur le campus de Newcastle.
Victoria réintègre sa colocation avec trois autres étudiantes. Entre les bâtiments encore bien vides de l'université, elle porte son sac et l'affirme. Elle va appliquer les restrictions à la lettre.
Oui, je trouve ça très bien. Le nombre de cas augmente, il faut agir. De toute façon, avec mes colocataires, nous passons notre doctorat, alors on va rester dans notre bulle.
Tous les étudiants ne sont évidemment pas aussi sages. Sous une grande bâche, une scène avec des enceintes et des transats posés en rang, c'est une fête d'accueil qui se prépare.
Il y a une fête ?
Pourquoi on ne nous a pas prévenus ? Je pense qu'on va venir.
Tout sourire, Alex et Daniel arrivent tout juste pour leur année universitaire. Ils n'ont entendu parler d'aucune mesure et ont bien l'intention d'en profiter.
Tu dois rencontrer de nouvelles personnes. On va faire la fête, ça va être sympa.
25 000 étudiants sont attendus sur ce campus qu'Igor connaît bien. Il enseigne ici après avoir été élève.
Newcastle, c'est le centre de la vie sociale, des loisirs pour toute la région. Les étudiants s'y amusent bien.
La direction de l'université encourage le port du masque en cours. Chaque étudiant en recevra un, lavable, ainsi que du gel hydroalcoolique et un thermomètre.
C'était notre correspondant Outre-Manche, Richard Place. Les États-Unis ont proclamé unilatéralement hier l'entrée en vigueur des sanctions internationales contre Téhéran. Dans le même temps, le secrétaire d'État Mike Pompeo menaçait de sanctions secondaires ceux qui ne s'y conformeraient pas. Un nouveau bras de fer entre États-Unis et Iran qu'analyse pour nous ce matin Adavan Amir Aslani. Ce franco-iranien est avocat et spécialiste de l'Iran.
De toute façon, les Américains vont continuer à agir, peu importe la position des Nations Unies, parce que les Américains se cachent derrière la transposition internationale de l'extraterritorialité de leurs droits. C'est-à-dire qu'ils vont considérer qu'effectivement les sanctions sont de nouveau imposées et ils vont se croire autorisés à sanctionner les entreprises non américaines qui travaillent avec l'Iran dans un certain nombre de secteurs stratégiques. Et vont pouvoir effectivement leur imposer des pénalités. Le problème in fine, c'est que aujourd'hui, tous les secteurs de l'Iran sont sanctionnés par les Américains et il ne reste ni personne physique ni personne morale à être sanctionné par les Américains. Donc, ça n'aura pas un effet mirobolant. Rappelez-vous que avant le retrait américain, l'Iran exportait 3 millions de barils de pétrole par jour. Aujourd'hui, avec le retrait américain et justement la menace que des sanctions américaines puissent frapper les acheteurs du pétrole iranien, les ventes pétrolières iraniennes ont été réduites à un pot de chagrin de 300 000 barils par jour. Tous les grands groupes internationaux qui se sont manifestés le lendemain de la signature de l'accord se sont retirés le lendemain du retrait américain. Donc franchement, je ne vois pas ce que les Américains pourront obtenir d'impactant sur l'économie iranienne avec ce show que le secrétaire d'État Pompeo essaie de transposer sur le comité international.
Des propos recueillis par Nabila Hamel. Tempête politique aux États-Unis après la mort vendredi de la doyenne de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg. Donald Trump a fait savoir qu'il comptait nommer très rapidement une remplaçante. Il imposerait donc un nouveau juge conservateur au sein de la plus haute instance judiciaire du pays. L'enjeu est de procéder à cette nomination avant la présidentielle dans un mois et demi ou avant une éventuelle passation de pouvoir en janvier si le démocrate Joe Biden venait à l'emporter. Tout va se jouer au Sénat, Grégory Phillips.
Il y a 53 sénateurs républicains pour 47 démocrates. Une fois que Donald Trump aura révélé le nom de sa candidate pour remplacer Ruth Bader Ginsburg, ce sera plutôt une femme, a précisé le président. Ce sont eux, les sénateurs, qui devront l'auditionner puis ensuite valider par un vote sa nomination à vie à la Cour suprême. La pression est énorme sur les épaules des sénateurs républicains, car comme pour leurs collègues démocrates, leurs sièges sont aussi remis en jeu le 3 novembre et le choix qu'ils vont faire aura des conséquences sur leur propre mandat, selon qu'ils auront facilité ou non le basculement complet de cette Cour suprême dans le camp conservateur. Pour l'instant, une seule sénatrice républicaine, Lisa Murkowski, élue en Alaska, traditionnellement très anti-Trump, a dit qu'elle s'opposerait à cette nomination car trop proche de l'élection. Sa collègue du Maine, Suzanne Collins, déclare aussi que le Sénat ne devrait pas faire cela, mais elle n'a pas tranché. Le patron de la majorité républicaine, Mitch McConnell, va donc toute cette semaine tout faire pour rassembler ses troupes. Si 4 sénateurs républicains font faux bond, alors le pari de Trump sera perdu. Mais pour la nomination du juge Brett Kavanaugh il y a 2 ans, et il était controversé, eh bien le camp républicain tout entier avait finalement voté sa nomination.
Et nous reviendrons sur les enjeux de cette nomination avec Camille Magnard et sa revue de presse internationale à 7h35 tout à l'heure sur Culture. Le temps de ce lundi, toujours instable au sud du pays, en traverse et orage. Un grand soleil au nord de la Loire avec 13 à 21 degrés ce matin. 6h40, c'est l'heure du journal des idées. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara, bonjour à toutes et à tous.
Jacques, la négociation sur le télétravail semble mal engagée. Laurent Berger à la CFDT a menacé de ne pas signer le diagnostic paritaire lors d'une réunion qui est prévue demain entre patronat et syndicats.
Oui, et d'une manière générale, les organisations de salariés qui aimeraient aller plus loin qu'un simple état des lieux réclament l'ouverture d'une négociation débouchant sur un nouvel accord national interprofessionnel applicable à l'ensemble des entreprises. Les mouvements d'employeurs ne veulent pas à ce stade en entendre parler, résument Bertrand Bissuel et Raphaël Besse Desmoulières dans Le Monde. C'est pourquoi, avec d'autres, le secrétaire général de la CFDT refuse de paraffer un document sans valeur juridique contraignante. « On n'a pas de temps, je cite, à perdre, à faire des figures de style », a-t-il déclaré. Si le patronat ne veut pas, ce qui est incompréhensible parce qu'il laisse un certain nombre d'entreprises dans une espèce de no man's land, le gouvernement doit prendre ses responsabilités. On a pu, depuis la fin du confinement, prendre la mesure des risques potentiels de ce type d'activité à distance, le télétravail, où la frontière s'efface entre le monde professionnel et la sphère personnelle, avec la relégation des collectifs de travail et la montée d'une forme de sentiment de culpabilité qui fait répondre à toute injonction à n'importe quel moment. Si cette pratique a pu rendre des services à l'économie en temps de pandémie, sa généralisation peut faire craindre une nouvelle désorganisation du travail s'ajoutant au temps partiel subi, à l'intérim, à la mobilité ou à la précarité. Le mensuel CQFD publie un dossier sur le temps de travail et rappelle que pour le mouvement ouvrier des 19e et 20e siècles, la lutte pour le temps a été la mère de toutes les batailles. Yfik Le Guen revient sur les ouvrages du sociologue allemand Hartmut Rosa, consacré à l'accélération du temps dans nos sociétés modernes, une sorte d'équivalent fonctionnel à la promesse de vie éternelle, jadis religieuse. Et il a mené l'enquête sur l'un des dirigeants de Google, Eric Schmidt, engagé comme conseiller du Congrès américain et du Pentagone dans une course vers la société connectée. Nommé à la tête d'un groupe d'experts chargé d'inventer l'avenir post-Covid de l'État de New York, il s'est fixé comme priorité la télémédecine, l'enseignement à distance et le très haut débit dans un programme dénoncé comme Screen New Deal, pacte des écrans, par Naomi Klein. Et l'on sait que les géants du numérique œuvrent en sourdine aux solutions et moyens techniques pour développer le télétravail. Un cas limite de l'accélération du temps imposé aux salariés a été révélé au procès France Télécom l'an dernier. Entre 2007 et 2010, ses dirigeants s'étaient fixés pour objectif le départ volontaire de 22 000 employés sur les 100 000 que comptait l'entreprise. C'est alors institutionnalisé un management par la terreur, selon les termes de Michel Deparis, un technicien marseillais qui s'est suicidé, l'un des 19 salariés qui en ont fait de même, 12 autres l'ayant tenté. À l'époque, Didier Lombard, le PDG, disait au cadre que les départs devaient se faire par la fenêtre ou par la porte. Or, le tribunal a jugé illégaux les moyens choisis pour atteindre l'objectif, rappelant notamment qu'il faut concilier le temps et les exigences de la transformation de l'entreprise avec le rythme de l'adaptation des agents qui assurent le succès de cette transformation. Sandra Lucbert a suivi le procès jour après jour. Elle vient de publier au Seuil une fiction réaliste et critique sous le titre « Personne ne sort les fusils ». Et elle évoque dans Marianne ce qui l'a frappé dans le déroulé de ce procès. Les dirigeants de France Télécom étaient estomaqués qu'on les incrimine pour des plans managériaux qu'ils estimaient réussis. Une autosatisfaction qui tranchait si radicalement avec l'indignation impuissante des parties civiles qu'elle a entrepris de faire apparaître littérairement le régime d'évidence des prévenus, leur « il fallait faire 22 000 départs parce que il fallait libérer 7 milliards de cash flow ». Du coup, c'est aussi une question de langue qui lui apparaît décisive, la langue que Gramsci appelait la langue hégémonique et qui s'impose au point de rendre invisibles les mécanismes sociaux qui nous constituent. Ainsi, le mot « agilité » a été mis dans nos bouches. Il dit la liquéfaction de la force de travail opérée par Uber, qui parle de « workflow », flux de travail. Or, dénonce-t-elle dans les Inrecuptibles, cette novlangue néolibérale est tellement prégnante qu'au procès, le tribunal parle la langue qu'il accuse. Il ne remet pas en cause la nécessité de ces licenciements, juste le fait que c'était une réduction des effectifs à marche forcée et que le volontariat des départs n'était qu'un simple affichage. C'est pourquoi, selon Sandra Lucbert, le procès France Télécom n'a pas eu lieu. Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous et à toutes.
Au sommaire des enjeux aujourd'hui, que va faire l'Italie de l'aide européenne ?
L'Italie a été en juillet le premier pays bénéficiaire du plan de relance européen de 750 milliards d'euros basé sur une dette commune pour faire face à la crise sanitaire. L'Italie va aussi pouvoir partager un peu l'effort d'accueil des migrants puisque la Commission européenne a annoncé vendredi vouloir abolir les accords de Dublin, ce qui ont permis à beaucoup de pays de se dédouaner à bon compte de leur manque de solidarité. L'Italie de Giuseppe Conte semble donc se relever petit à petit et l'on verra si les premiers effets s'en font ressentir dans les urnes puisqu'ont lieu depuis hier et aujourd'hui encore des élections régionales en Toscane, dans les Pouilles, en Campanie, Vénétie et Ligurie, en même temps qu'un référendum national sur la réduction du nombre de parlementaires, promesse du mouvement 5 étoiles pour remettre en cause un vieux système décrédibilisé. Bonjour Ludmila Hakon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes historienne spécialiste de l'Italie, chercheuse associée à Paris 1. Alors d'après l'accord des 27 cet été, l'Italie devait obtenir 209 milliards d'euros, dont 89 sous forme de subventions, le reste sera prêté. Qu'est-ce que le gouvernement italien compte en faire ? Il a présenté la semaine dernière son plan de relance devant le Parlement.
Eh bien, Giuseppe Conte a dessiné les grandes lignes de ce plan. Par exemple, la question de la transition écologique, par exemple la réduction des impôts et aussi de relance sociale et aussi l'innovation des entreprises, de la technologie, de l'école, de la santé et la question de l'égalité homme-femme.
Oui, parce que l'Italie, elle doit quand même répondre aussi à des grands objectifs qui ont été fixés par l'Union européenne.
Absolument.
Des projets écologiques, des infrastructures plus sûres et efficaces aussi, l'effondrement du pont de Gênes oui. L'été 2018 est encore bien sûr dans les mémoires.
Ben, non seulement c'est dans les mémoires, mais aussi très grand succès de Giuseppe Conte, c'est l'inauguration du nouveau pont.
Extraordinaire,
flamboyant, avec un taux record de travail, d'heures de travail en si peu de temps, et ça a été la fierté des Italiens. Il faut dire que cette inauguration a vraiment marqué un tournant. C'est à la fois quelque chose qui est derrière nous et en même temps c'est aussi un très grand succès de ce gouvernement.
On parle maintenant du modèle de Gênes, encore faudra-t-il aussi rénover les infrastructures avant et après le pont pour que les embouteillages se terminent. Ludmila Hakon, vous parlez de réforme des impôts, qu'est-ce que promet le plan de relance alors que les pays européens qu'on dit frugaux soupçonnent régulièrement une partie des Italiens d'y échapper à l'impôt ?
Eh bien, il y a une réduction des impôts, notamment pour les entreprises et les familles, c'est ce qui est déclaré. Alors, on verra les détails dans les plans qui seront approuvés et qui seront soumis à l'Union européenne, parce que là on est dans la généralité, il faudra voir dans les détails et aussi l'application de toutes ces mesures-là, parce que vous savez que en Italie il y a une certaine autonomie régionale aussi, donc il faut à la fois voir dans les détails de cette application comment est-ce que tout ceci va être effectivement réparti et aussi comment dans les régions ça va se faire. Et évidemment il y a des discussions très animées en Italie actuellement. Qu'est-ce qu'on va faire de cet argent? Comment est-ce qu'on va l'utiliser? Comment on va le distribuer? Évidemment, les partis politiques et les différents mouvements sont partie prenante de tout cela. Et on a l'impression un petit peu d'être devant celui qui a gagné la loterie et qui ne sait pas comment faire. En réalité, il n'y a pas que de loterie. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un paquet d'argent qui est promis et il n'est pas encore alloué. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il va y avoir simplement le prêt ou bien est-ce qu'il va y avoir un dégagement de fonds sans condition?
Alors, est-ce que ces questions-là ont joué justement dans la campagne des élections régionales qui se tiennent aujourd'hui? Quels bénéfices électoraux peut en tirer notamment et surtout le Parti démocrate du président du Conseil Giuseppe Conte qui s'est battu pour obtenir ce plan, qui a obtenu une victoire symbolique et politique, vous le disiez, avec l'inauguration de ce nouveau pont de Gênes? En tout cas, quels sont pour l'instant les premiers effets dans les régions?
Alors, juste pour préciser, Giuseppe Conte, il est en fait président du Conseil, mais même si officiellement il est au-dessus des partis, il est quand même, a été proposé au départ par 5 étoiles. Il est considéré quand même comme issu plutôt de 5 étoiles que du Parti démocrate. Cela dit, c'est une coalition Parti démocrate 5 étoiles.
Et d'ailleurs, les électeurs du Parti démocrate, aux dernières élections dès 2018, on avait vu, c'était détourné pour beaucoup du Parti démocrate pour se diriger vers le mouvement 5 étoiles. Est-ce que ces mesures, dont certaines sont sociales, peuvent ramener certains anciens électeurs du Parti démocrate au bercail?
C'est très complexe parce qu'en fait, à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe, avec le Covid, avec la crise, avec les mesures qui ont été de façon sans précédent promis par l'Europe, c'est un front transversal qui s'est dessiné. Les partis politiques n'ont pas tous la même position, même au sein des partis politiques, des différentes familles qui les composent ne sont pas exactement sur la même longueur d'onde. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'heure actuelle, Giuseppe Conte et son gouvernement sont plébiscités pour la gestion du Covid, pour la situation, la gestion des affaires européennes et pour effectivement cette pédagogie qui est propre précisément à Giuseppe Conte. Et justement, vous parliez tout à l'heure de ces mesures du gouvernement. Giuseppe Conte a demandé à ce que ça soit le Parlement qui tranche sur cette question-là. Donc, il a joué en fait la carte constitutionnelle, c'est-à-dire c'est une république parlementaire, nous n'oublions pas, et donc c'est au Parlement de décider ce que va faire l'Europe de ces fonds qui sont promis.
Mais c'est le cas dans tous les pays d'Europe d'ailleurs, c'est une obligation.
Tout à fait, mais il a vraiment martelé cette volonté que ça soit le Parlement qui décide et non pas le gouvernement ou des cabinets ministériels. Donc.
Mais par ailleurs, c'est moins le ton quand même, entre guillemets, que l'année dernière en Italie, de s'en prendre à l'Union européenne dans un tel contexte. Quand on voit le président sortant de la Vénétie, qui est le grand favori pour l'élection régionale d'aujourd'hui, Luca Zaia, c'est quelqu'un de la Ligue, mais qui n'est pas... il est anti-migrant, comme on dit, mais il n'est pas anti-Union européenne.
Il n'est pas anti-Union européenne. C'est un homme tout à fait responsable par rapport à la gestion de sa région. Il est un peu en contre-tendance par rapport à Salvini sur un certain nombre de points. Il est plus, on va dire, plus rond.
Matteo Salvini, le patron de la Ligue et l'ancien ministre de l'Intérieur.
Oui, tout à fait. N'oublions pas tout de même que la Ligue du Nord a une position extrêmement anti-migrant qui a été et qu'il est toujours extrêmement virulente vis-à-vis des migrants, avec des appels, disons-le, à des appels à la haine qui ont parfois été suivis de faits graves, de faits d'armes aussi, hein, par des particuliers. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même un petit peu dans la tête de tout le monde. N'oublions pas aussi que la question de la migration n'a pas été gérée comme il se doit par l'Europe. Ça, c'est dans la tête de tout le monde. Et donc, ce changement, est-ce que ça va répondre à la fois aux besoins humanitaires sans permettre en fait une utilisation, disons, démagogique de ces mesures qui va permettre à l'extrême droite notamment de tirer son épingle du jeu.
Quand vous parlez des mesures, vous parlez de l'annonce de la Commission européenne vendredi qu'elle allait abroger le pacte, qu'elle allait donc annoncer bientôt son pacte migratoire et notamment cette annonce d'un abandon des règles de Dublin, ces règles qui faisaient peser aux pays du sud de l'Europe la plus grande responsabilité dans l'accueil des demandeurs d'asile. Comment cette annonce a été accueillie en Italie et est-ce que surtout ça a joué là, à votre avis, dans le vote des électeurs?
Je pense que ce qui a joué le plus, c'est vraiment la situation sanitaire et économique. La question
35 000 morts, plus de 274 000 malades.
La suspension des accords de Dublin est venue trop tardivement dans la campagne électorale. Les gens n'ont pas encore eu le temps de vraiment réagir. Il y a eu des réactions, notamment de la part de la Ligue du Nord et de Fratelli d'Italia, parti néofasciste, on va dire les choses, et ce qui sont évidemment contraires à tout assouplissement dans l'accueil des migrants ou à toute mesure qui serait d'accueil. Voilà. Alors que cette mesure-là veut simplement répartir en Europe le poids d'un problème grave humanitaire et qui a aussi des conséquences à moyen et à long terme pour l'Europe entière, pour le monde entier. Et donc, il ne s'agit pas simplement de, comme le dit l'extrême droite ou la Ligue du Nord dans toutes ses facettes, d'une façon d'accueillir n'importe qui. C'est une question à la fois humanitaire, mais c'est aussi un pari sur l'avenir et un gage de civilisation de savoir comment est-ce qu'on va accueillir ceux qui ont besoin.
Ludmila Hakon, se tient aussi aujourd'hui un référendum sur la diminution du nombre de parlementaires. C'était une promesse du mouvement 5 étoiles. Oui. Qu'est-ce que l'historienne que vous êtes peut en dire pour conclure ?
Oui, ça c'est une très vieille ancienne en Italie. Il y a tout un courant anti-parlementaire ou bien anti-institution, anti-système qui a souvent utilisé des mesures de réduction du parlementarisme. Des attaques contre les parlementaires corrompus qui sont responsables de la déliquescence de l'Italie. Il faut dire qu'aussi dans le Parti démocrate, une frange qui était celle qui se rapporte à Matteo Renzi était pour la diminution des parlementaires. Donc ce n'est pas simplement quelque chose qui est proche de 5 étoiles, c'est une tendance qui est un peu au-dessus des partis ou en transversal qui a trouvé l'accomplissement dans ce référendum. On verra les résultats ce soir.
Et les détracteurs de ce référendum regrettent que ce soit pas aussi une réforme de la loi électorale
tout
qui
à fait
propose aux électeurs. Voilà,
tout
on en saura plus tout à l'heure dans le dossier de la rédaction à 7h25. En tout cas, je vous remercie Ludmila Hakon.
C'est moi qui vous remercie.
Et je vous souhaite une bonne journée.
Bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
L'économie est une science. Sur France Culture, Tiffaine de Rocchini.
Des premiers comptoirs aux guerres d'indépendance, Entendez-vous l'écho s'intéresse à l'économie de la colonisation. Un voyage dans le temps qui nous mènera de Saïgon à Oran, en passant par les rives du fleuve Congo.
Entendez-vous l'écho, du lundi au vendredi à 14h sur France Culture et sur franceculture.fr.
France Culture présente Sing Me a Song, un film de Thomas Balmès. Le jeune moine Peyanki vit dans un monastère traditionnel au Bhoutan. Au pays du bonheur, l'arrivée récente d'Internet bouscule les rituels quotidiens. Peyanki se passionne pour les chansons d'amour et tombe amoureux sur les réseaux sociaux d'une jeune chanteuse. Succombera-t-il à la romance et aux tentations de la ville ? Sing Me a Song, mercredi 23 septembre au cinéma. Un film France Culture.
Vous écoutez France Culture, bonjour Guillaume Erner.
Mais bonjour Julie Gacon.
Bon, premier matin de la semaine Guillaume, et votre humeur du jour, bonne année 5781.
Et oui, bonne année à tous, puisqu'effectivement c'est le nouvel an juif, et je ne sais pas si vous avez remarqué Julie, mais cette année a été fêtée bien au-delà du monde juif. C'est que beaucoup de personnes, comme cela a été dit, et vous en êtes peut-être, aspirent à en finir avec 2020, et donc tout est bon pour passer à l'étape d'après, au moins en 5781. On est à peu près certain qu'on aura un vaccin ou qu'à défaut on sera débarrassé du SARS-CoV-2, quitte à prendre le risque d'en être au SARS-CoV-1656. Le jeu en vaut la chandelle. L'ampleur donnée au nouvel an juif cette année n'a donc rien à voir avec un risque de séparatisme, sauf si l'on entend par séparatisme la volonté donc de se séparer définitivement du nanus horribilis, comme on dit, de l'autre côté de la rue, autrement dit en latin. Si les juifs célèbrent 5781, c'est tout simplement parce que Comme nous dit l'Ancien Testament, le monde a été créé en octobre 3761 avant Jésus-Christ, ce qui évidemment pose un certain nombre de problèmes pratiques lorsqu'il s'agit d'aller visiter la grotte Chauvet. 5780, vous allez me dire, cela fait beaucoup, je ne trancherai pas la question de savoir s'il est raisonnable d'avoir l'âge de son calendrier, ni même s'il est raisonnable de placer les fêtes de fin d'année au moment même où le nombre de contaminations augmente. Nos sociétés ont de plus en plus de difficultés, quoi qu'il en soit, à rythmer l'année à l'aide de fêtes communes, la Pentecôte, l'Ascension, on ne sait plus trop ce qu'elle signifie, les armistices ne font pas beaucoup mieux, il ne reste plus que les fêtes commerciales pour organiser l'année, de la Saint-Valentin au solde en passant par la fête des mères et la sortie du nouvel iPhone 5780, soit l'an 10 après l'iPhone 2, voilà qui est bien commode pour oublier 2020. Reste à savoir quelles seront les autres célébrations du calendrier collectif. Va-t-on fêter l'an 1 après le déconfinement, à moins que l'on attende 5782 en espérant qu'il s'agisse de l'an 1 après le Covid.